Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Donc ce soir, là maintenant, nous allons rencontrer
des étudiants. S'ils sont là. Qui normalement ont préparé un repas qui a commencé à 19h, donc nous on arrive toujours en retard. Tantôt on a la messe avec eux. Du coup on s'échappe avant la messe de la cathédrale. Donc c'est une fois sur deux. Et ce soir c'est le repas. Parce que quand il y a la messe, il y a juste un pique-nique que chacun apporte et après un thème. Et ce soir c'est donc le repas préparé par la coloc. Parce que sur place il y a une coloc d'étudiants.
D'accord. C'est la maison Saint-Paul, c'est ça?
C'est la maison Saint-Paul.
La maison Saint-Paul, qui est la maison diocésaine?
Oui,
c'est
la maison diocésaine. Et après, il y a une rencontre plus longue. Voilà.
Une dernière fois cette semaine encore, nous retrouvons les fraternités apostoliques de Jérusalem de Tarbes. Vous le savez, c'est avec elles que nous avons vécu le Triduum pascal. Tout au long de ces 4 jours, du jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques, nous avons partagé un peu de leur vie et compris un peu de leur histoire ancrée dans celle des fraternités monastiques de Jérusalem. En mai 1972, le cardinal François Marty, archevêque de Paris, lance un appel. Il faut à Paris des monastères pour l'an 2000, des communautés d'hommes et de femmes rayonnant la prière dans la pauvreté de leur vie. Pierre Delfieux, prêtre du diocèse de Rodez, aumônier des étudiants à la Sorbonne, entend l'appel et part dans le Sahara. Là, il mûrit l'intuition d'une vie monastique au cœur du monde. À son retour, le cardinal François Marty envoie frère Pierre-Marie en mission pour être moine dans Paris. Et avec ceux qui deviendront les premiers frères, le projet de cette vie monastique dans la ville prend peu à peu forme. Le 1er novembre 1975, au centre de Paris, dans l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, les fraternités monastiques de Jérusalem voient le jour. Un an plus tard, le 8 décembre 1976, ce sera la fondation des sœurs. Puis, en 1998, viendront les fraternités apostoliques de Jérusalem. Les frères et les sœurs rencontrés à Tarbes nous ont raconté comment, pour répondre à l'appel de l'évêque de Tarbes et de Lourdes, le père André Cab a accepté de quitter ses responsabilités de chapelain au sanctuaire de Lourdes et de responsable de l'école de l'Évangile, une école d'évangélisation pour des jeunes qu'il avait fondée, et ce, pour prendre la responsabilité d'une paroisse en tant que curé. Se demandant alors comment assumer au mieux cette nouvelle charge, il propose à quelques jeunes de l'école de l'Évangile de l'accompagner dans cette nouvelle aventure afin de vivre au sein de la paroisse une vie de prière, de fraternité, de formation et d'apostolat. Ainsi, nous ont dit les frères et sœurs de la fraternité, a commencé le 25 juillet 1995 cette première expérience de vie communautaire portant le nom de Notre-Dame de l'Aurore. Puis, ressentant le besoin d'être soutenus dans leur vie spirituelle et fraternelle, et guidés par la Providence, ses premiers frères et sœurs se rattachent en 1998 aux fraternités monastiques de Jérusalem, et ce en tant qu'association privée de fidèles. C'est ainsi qu'a commencé l'aventure des fraternités apostoliques de Jérusalem. En 2013, à la demande de Mgr Brouet, alors évêque de Tarbes et Lourdes, les fraternités ont élargi leur champ de mission en déménageant à la cathédrale de Tarbes. Et c'est là que nous les avons rencontrés tout au long de cette semaine sainte. Sœur Monica, que nous laissons à sa rencontre de monnerie étudiante, s'inscrit dans l'histoire de ces fraternités, contemporaines du renouveau charismatique, synonyme de la redécouverte de la Bible et des premiers écrits chrétiens, du lien vital à vivre entre les églises chrétiennes divisées, du travail de fond et de forme sur la liturgie, de l'exploration de nouvelles périphéries et évangélisées, de l'investissement des laïcs dans les missions d'église. Oui, les fraternités sont de cette veine-là aussi bien que de toute la tradition qui précède, car on ne peut dissocier l'une de l'autre. Sœur Monica.
Alors, pour ma part, moi, je suis un peu une enfant du pays, parce que j'ai grandi à Lourdes, Et donc, la petite fraternité apostolique de Jérusalem naissante était à Haussin, à 20 km de chez moi. Et j'ai commencé, j'ai été invitée à un camp luge à l'époque, quand j'avais 17 ans. Et ça a été pour moi le début de mon cheminement dans la vie chrétienne. Je viens toujours d'une famille très catholique, pratiquante. Mais j'avais une petite période de crise d'adolescence où j'avais arrêté d'aller à la messe, parce que je... j'étais un peu rejetée à cause de ma foi à l'école que par conviction, parce que je ne croyais pas en Dieu.
Pour vous intégrer davantage.
Voilà, c'est ça. Et en fait, pendant ce camp, j'ai d'abord été touchée par l'amitié, en fait, et le fait d'être accueillie et de voir des jeunes bien dans leur peau autour de moi, ça a été un peu le premier déclic. Et à partir de là, en fait, il m'en fallait pas beaucoup. J'ai fait à peu près toutes les propositions que la communauté proposait.
Il y avait une attente, une soif alors.
Il y avait une soif en moi, mais par contre, j'étais pas ouverte à la vocation. C'était quelque chose, j'osais pas aller jusqu'au bout de mon âme et jusqu'au bout de mon cœur. Et donc en fait, après j'ai continué, j'ai fait des études, j'ai travaillé et je suis allée à peu près au bout de, je pense, ce qu'on peut faire comme jeune professionnelle, comme étudiante, comme engagement dans la vie chrétienne, parce que en fait j'ai continué à cheminer avec la communauté de l'Emmanuel et entre ma quatrième et ma cinquième année d'études, j'ai fait une école d'évangélisation en Allemagne à Altötting et après je me suis engagée comme laïque dans la communauté de l'Emmanuel. Et quand je travaillais, je m'occupais d'un groupe de prière. Mmh. Et donc, voilà.
C'est le Seigneur qui vous disait, mais il faut continuer encore un peu plus loin.
Il faut aller un peu plus loin. En fait, avant que j'entre en communauté, ma dernière année en tant que jeune professionnelle a été un peu pour moi une année d'épreuve à la fois et en même temps de profondeur et qui m'a permis de dire oui au Seigneur. En fait, c'était comme si j'avais mis une cloche sur ce désir profond. Et du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi que je devais changer. Dans mon travail, il y avait aussi des petites difficultés. Je travaillais dans la musique baroque. Et j'avais un responsable qui était un artiste aussi. Voilà. J'ai beaucoup aimé mon travail, mais c'était quelque chose qui était très prenant et presque qui demandait tout, quoi. C'est comme une vocation, en fait. Et donc, les artistes, c'est, pour eux, c'était un peu son appel, mais moi, je n'étais pas tout à fait sur la même longueur.
Il n'y a pas de dissociation, peut-être, entre vie privée et puis la vie professionnelle,
peut-être. Voilà, il y avait des choses à ce niveau-là qui n'étaient pas très bien articulées. Et je sortais aussi d'une relation amoureuse où, c'était compliqué parce que j'avais quitté ce garçon qui n'était pas très clair avec moi, et en même temps j'avais encore des sentiments amoureux au fond de moi, donc j'étais pas très claire à ce niveau-là. Et au milieu de tout ça, mon accompagnatrice m'a proposé de lire Élisabeth de la Trinité, parce qu'en même temps je faisais l'expérience, quand je priais toute seule dans ma chambre, de la présence de Dieu en moi, en fait. Et c'était vraiment très étonnant. Je vivais cette expérience comme si j'étais devant le Saint-Sacrement, mais dans ma chambre, au niveau de la prière. Et donc, elle m'a conseillé de lire Élisabeth de la Trinité. En fait, c'est devenu pour moi une amie, parce que j'ai lu ses écrits. Je me suis acheté un petit livre tout simple d'écrits spirituels et qui m'ont transpercée, en fait, pendant un an. C'est une sainte qui était habitée par la Sainte Trinité, et en fait ça se sent dans ses écrits. Et donc je vivais quelque chose de très fort spirituellement. En fait je faisais aussi une année de discernement avec la communauté de l'Emmanuel, mais sans vraiment encore avoir cette ouverture de cœur. Et à la fin de cette année, on nous avait demandé si on voulait continuer notre chemin avec les sœurs de l'Emmanuel, et moi j'avais dit non, c'est pas ma vocation. Et donc, je repartais pour une nouvelle année, une nouvelle année de travail. Et je me souviens très bien qu'on avait une réunion avec le prêtre qui était avec nous pour le groupe de prière. Et pendant cette réunion, il nous a annoncé qu'il y avait une jeune fille qui s'appelle Pauline, qui avait 18 ou 19 ans et qui avait décidé d'entrer au Carmel. Et moi, je me souviens que c'était comme si le sol s'est écroulé sous moi. J'ai eu un mal fou à pas montrer à quel point j'ai été touchée. Et ce soir-là, après cette réunion, quand je suis rentrée chez moi, en fait, j'ai crié vers le Seigneur et en fait, je lui ai dit « Viens me sauver. Moi, j'y arrive pas. Je sens que je dois bouger quelque chose dans ma vie, mais en fait, je me sens en même temps incapable. » Et c'était un mercredi soir, je m'en souviens. Et le vendredi soir, donc deux jours après, je suis allée à la messe et pendant la communion, j'ai dit « Oui au Seigneur. » C'était une messe où il y avait peut-être le prêtre et trois mamies et moi. C'était donc pas du tout le côté sensible qui m'a fait répondre à cet appel. Et au moment où j'ai dit oui au Seigneur, j'ai dit ok Seigneur, mais du coup je vais là où mon cœur, où mon cœur m'appelle en fait. Et j'avais été donc très marquée, donc étant jeune, par les fraternités apostoliques de Jérusalem, qui ont été déterminantes pour mon cheminement de vie chrétienne. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à ça. En fait, c'était un peu aussi la seule communauté où je me sentais capable d'aller frapper à la porte. Et donc, j'ai appelé le père David Marie, qui avait été un petit peu mon accompagnateur, mais ça faisait longtemps, ça faisait peut-être 7-8 ans que j'étais plus en lien, parce que j'avais 27 ans, hein, et donc j'étais... Voilà, et en fait, je l'ai appelé, et puis il m'a dit quelque chose qui m'a d'abord étonnée. Il m'a dit, bon, ok, tu me rappelles dans 3 jours, si dans 3 jours c'est panique à bord, ben on n'en repart plus, on n'en reparle plus. Et si t'es dans la paix et dans la joie, ben en fait, il faudrait que t'appelles plutôt la prieure des sœurs, parce qu'a priori, ça serait plutôt pour les sœurs que les frères. Et en fait, moi, j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a dit, et le matin, je me levais, j'étais dans la paix, dans la joie, et... pendant 3 jours, vraiment. Et du coup, après, j'ai appelé la prieure des sœurs, qui m'a dit après qu'il fallait revenir venir voir une semaine. Donc, je suis venue une semaine. Puis après, je devais rentrer chez moi et revenir pour un mois. Et en fait, après, ça s'est fait très vite. Je suis rentrée 6 mois après. Mais parce que je pense que c'était comme un fruit mûr. Et je me souviens très bien de la libération de mon cœur. Quand j'ai dit oui au Seigneur intérieurement, j'avais l'impression d'avoir... un puits immense qui se creusait vers le bas, et je voyais un tronc d'arbre qui allait vers le ciel.
La lumière, la clarté.
Voilà, je pense que c'était un peu tout d'un coup la libération de mon cœur dans ses aspirations les plus profondes. Et bon, je pense que ça s'est vérifié ensuite, parce que en fait, ça se voyait que j'étais libérée, que j'allais mieux. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis me le disaient. Et donc voilà. Après, ça s'est fait tout seul.
Et après, la crainte avait disparu.
En fait, c'était juste. Je pense que j'avais peur de l'appel du Seigneur, parce que peut-être j'étais attirée.
Tout lui donner, tout lui donner, oui.
Et en fait, une fois que j'ai lâché prise, ça s'est fait tout seul. Donc c'est mon chemin. Il y a d'autres personnes qui ont le cœur plus ouvert, plus jeune, qui du coup ont un autre chemin de discernement. Moi, ça s'est fait comme ça. Pour une vocation, en fait, c'est unique à chacun. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe qu'à la messe, même dans la vie chrétienne, on parle de Jésus comme l'agneau. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question d'où ça vient. Pourquoi le prêtre dit voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pourquoi on chante agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. On dit ça. D'où ça vient? Est-ce que quelqu'un a une idée?
Louise, non?
Non, berger, tout ça.
Ouais, le berger.
D'ailleurs, la parabole avec les animaux.
Quand Dieu
Grand Noël a sacrifié un agneau.
Aujourd'hui, à son tour, Sœur Monica essaie de transmettre auprès des jeunes de l'aumônerie, comme nous l'entendons, mais aussi auprès de tous ceux qui, en quête consciente ou non, cherchent également ce trésor qu'elle porte en elle et qui la fait vivre.
Alors, notre mission ici...
Ou la vôtre en particulier.
Alors, je pense qu'elle est d'abord enracinée dans la prière, parce que donc notre communauté est inspirée des fraternités monastiques de Jérusalem qui ont un rythme de prière 3 fois par jour. Et donc, on a et la lectio aussi tous les jours. Donc, nous, on a 1 heure d'adoration tous les matins. On a 1 heure de lectio et aussi l'office divin, donc les laudes le matin, milieu du jour, office de lecture, vêpres et complies. Et je pense que pour tous les frères et sœurs, c'est vraiment notre source pour pouvoir nous donner. Voilà. Et après, une mission au service de l'Église et avec un peu l'évangélisation comme ADN, parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont venus d'une école d'évangélisation en fait, qui était dans le diocèse. Moi-même, j'ai fait aussi une école d'évangélisation. Et je crois que ça fait partie de l'ADN de notre communauté. Une fois, une jeune femme est venue passer quelques mois chez nous. Et elle m'avait dit, chez vous, il y a marqué évangélisation partout. ça m'a marqué. Voilà. Enracinée dans l'Église, au service de l'Église, je crois que c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, chacun profondément. Et aussi dans une vie fraternelle, parce que c'est vrai que pour la mission, être ensemble, ne pas être seul, c'est important pour pouvoir tenir dans la durée. Et donc nous, on a cette grâce d'avoir une mission, une vie fraternelle à la fois entre sœurs, entre frères et frères et sœurs. Et donc ça, je crois aussi que c'est quelque chose de très beau.
Très beau et pas courant. Et pas, quoi, enfin
pas courant. Et en même temps, on voit que dans les premiers temps de l'Église, il y avait aussi un monastère d'hommes et à côté un monastère de femmes. Jésus est allé en mission avec les disciples et il y avait aussi des saintes femmes. Donc il y a quelque chose aussi qui est quand même là dans la tradition.
Pour une fécondité heureuse. Hein.
Oui.
Pour l'Église.
En fait, moi je le vis comme une grâce, en fait, parce qu'on est complémentaires. Et je trouve ça beau.
Et avec des moments d'écoute et de partage. Avec à midi, par exemple, nous avons déjeuné ensemble.
Oui.
Vous les accueillez, ils vous accueillent chez vous.
Alors, on mange 5 fois par semaine ensemble. Et quand ils viennent chez nous, c'est nous qui les invitons. Et quand on va chez eux, c'est eux qui nous invitent. Donc, chacun a ses lieux et ses manières de faire. Voilà. Donc, il y a des... oui, il y a comment dire, ça nécessite un ajustement chaste dans nos relations, une sagesse de vie, d'avoir des choses bien claires pour justement avoir un positionnement clair.
Mais pourquoi ce choix de vie en fraternité, frère David-Marie ?
Moi, je crois que ce qu'a fait Dieu au départ, c'est qu'il a créé Adam et Ève avec leurs enfants. Ensuite, Abraham, il a à partir de l'expérience spirituelle d'Abraham, il y a ce premier peuple qui est né sous la bénédiction du Seigneur, mais après, surtout avec Jésus. Jésus, il n'a rien écrit. Moi, ça me frappe toujours. Rien, pas un mot, pas une parole. Par contre, il a réuni 12 apôtres. Et nous savons, quand on lit les Écritures, c'est qu'ils ne se ressemblaient pas, ils avaient des tendances politiques complètement différentes. voire opposés. Hein, donc ce n'est pas ça qui les rassemblait. Ils avaient des styles aussi très, très, très différents, des tempéraments. Et cependant, Jésus, la seule chose qu'il a faite, hein, il n'a pas laissé une espèce de stratégie à suivre, mais il a réuni les 12. Hein, et les 12 apôtres, eh bien, c'est cette première petite communauté chrétienne qui est un peu, effectivement, je dirais, qui est notre matrice, quoi. Hein, l'Église, elle est faite pour se rassembler. D'ailleurs, même avant les 12, il y avait Marie. Et Jésus, quand Marie a dit oui à l'ange Gabriel, ça y est, l'Église était présente. Et après, avec Joseph, pendant 30 ans, ils ont vécu une vie de famille. Et l'Église, c'est ça. Hein, c'est pas des structures, c'est pas des projets pastoraux, des stratégies. C'est pour ça que l'Église, en fait, parfois on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va devenir, l'Église? Mais l'Église n'a pas trop sans en faire parce que c'est Jésus qui l'a souhaité ainsi. Donc l'Église, à partir du moment où c'est une communauté d'hommes et de femmes, elle est fragile depuis 2000 ans, mais ça ne fait pas peur à Dieu. Et donc effectivement, l'enracinement, elle est dans l'Écriture, elle est dans l'expérience des premiers chrétiens, et ensuite, on voit dans les actes des apôtres, hein, donc ils mettaient tout en commun, et tout de suite, il y a eu des premières communautés chrétiennes, une fois qu'il n'y avait plus trop de persécutions, ils se sont réunis, les petits monastères, enfin, si vous voulez, c'est après les ordres mendiants, tout au long de l'histoire de l'Église, en fait, on cherche à savoir comment vivre ensemble pour devenir une communauté chrétienne où Jésus est présent au cœur.
Et dans le domaine de la liturgie, qui est dialogue avec le Seigneur, les fraternités, nous l'avons déjà constaté, sont au carrefour de plusieurs traditions entre Orient et Occident chrétien. Sœur Monica.
En fait, il y a des éléments de notre liturgie qui viennent de l'orthodoxie, via les fraternités monastiques de Jérusalem qui se sont aussi inspirées de certains éléments liturgiques. Le premier, c'est d'être tourné ensemble vers l'Orient. En fait, dans les monastères traditionnels, le cœur des moines, ils se regardent, ils se font face à face. Et nous, on est tournés ensemble vers l'Orient. Et donc ça, c'est une chose toute simple, mais je crois assez belle, et vraiment d'être tournée vers le Christ. Et après, il y a des éléments comme les métanies et le trisagion qui viennent aussi de l'Orient. Métanie où on touche le sol et on se signe en signe de conversion.
Je me suis posé la question d'ailleurs ce matin.
Et on chante Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Donc c'est... une hymne à la Trinité. Voilà. Et trisagion, en grec, ça veut dire trois fois saint. Voilà, après, il y a l'Orient, le fait de chanter l'Esprit Saint avant chaque office. Il y a des petites choses comme ça. Chez les monastiques, c'est plus marquant encore que chez nous, mais d'avoir des icônes. Donc nous, on en a quelques-unes, pas encore énormément, parce que ça coûte très cher aussi. Voilà, et une liturgie qui prend son temps. C'est vrai que si on les laudes milieu du jour, les vêpres, ça peut être dit plus rapidement. En fait, il y a des, nous on a des hymnes peut-être un peu plus déployés, le fait de chanter. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Enfin moi, c'est vrai que j'ai grandi ici avec cette liturgie, donc pour moi c'est normal. C'est pas
avec des influences aussi du Père Gouze, enraciné vraiment dans les premières églises, mais aussi avec l'apport d'aujourd'hui, notamment avec celle du Père Gouze dans la musique.
Oui,
et
complètement. Oui, ça c'est complètement une grâce de pouvoir chanter les hymnes du Père André Gouze, parce qu'elles sont enracinées totalement dans la parole de Dieu et dans les pères de l'Église. Et je crois que c'est très important, les mots de notre liturgie, parce qu'ils nous façonnent. Et c'est vrai qu'il y a des hymnes pour tous les temps liturgiques. Donc en ce moment, on est en carême et on a des textes qui sont aussi adaptés aux célébrations.
C'est vraiment à la source, quoi.
Oui, exactement. Et ça, c'est issu aussi du mouvement liturgique après Concile. Il y a eu cette redécouverte justement des pères de l'Église et cette ouverture à l'Orient. Et comme notre communauté est née dans cette mouvance-là, il y a aussi des apports de cette redécouverte qui sont, je crois, une richesse pour l'Église. Et c'est une redécouverte, c'est-à-dire que c'est pas des inventions.
Ainsi s'achèvent nos immersions au sein de ces fraternités apostoliques de Jérusalem qui ont choisi de vivre au quotidien l'expérience de l'amour fraternel par la prière, le partage, le pardon et la joie.